d'écouter RFI, 2 heures à Paris, 1 heure en temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
Des prévisions météo rassurantes pour Los Angeles, les vents violents alimentant les méga-feux qui brûlent la grande ville de la côte ouest américaine depuis une semaine devraient s'affaiblir au cours des prochaines heures. Ces incendies ont déjà tué 24 personnes au moins et ravagé 12 000 habitations. Malgré ce bilan apocalyptique, les familles sinistrées reviennent peu à peu à la vie normale. Les enfants notamment reprennent le chemin de l'école, comme l'a constaté notre envoyé spécial Arim Lipold. 15 mois de souffrance qui pourraient prendre fin dimanche à Gaza. Un accord de trêve entre Israël et le Hamas a été annoncé ce mercredi. Les détails sont en cours de finalisation, mais une entrée en vigueur pourrait avoir lieu en fin de semaine. Des échanges de prisonniers palestiniens et d'otages du Hamas devraient avoir lieu. Pour un expert palestinien que vous allez entendre dans ce journal, pas sûr pour autant que l'accord tienne de façon durable. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui était chez son allié polonais ce mercredi pour réclamer de l'aide face à la Russie. Et puis en France, François Bayrou, le Premier ministre, tente la méthode conclave pour réviser la réforme des retraites. Les pompiers de Los Angeles attendaient une telle nouvelle avec impatience après plus d'une semaine de feux jusqu'à présent incontrôlables. Les vents violents devraient enfin se calmer dans les heures qui viennent, c'est ce qu'ont annoncé ce mercredi les experts météo américains. Un répit bienvenu alors que les feux ont déjà tué 24 personnes au moins et dévasté plus de 12 000 habitations. À certaines familles victimes essaient malgré tout de tourner la page. Leurs enfants ont d'ailleurs remis le cartable sur les épaules et repris le chemin de l'école à Arim Lipold.
C'était un moment chargé d'émotions. Il s'agissait des enfants du quartier Pacific Palisades, en grande partie dévastés par les incendies. Leur école primaire a été complètement détruite, mais ils ont été accueillis par une autre école située dans le quartier de Brentwood. Là-bas, des classes spéciales ont été aménagées pour ces petits réfugiés du feu. Les enfants étaient tout excités de retrouver leur maîtresse, leurs camarades de classe et une certaine normalité scolaire aussi dans une situation qui reste extrêmement compliquée et stressante. La plupart d'entre eux ont perdu leur maison. Aujourd'hui, ils vivent chez des amis de leurs parents, dans des Airbnb ou parfois dans une seule chambre d'hôtel. 4 personnes dans un espace restreint, c'est loin d'être évident. Et puis, il y a le stress des parents qui ne savent pas où aller ni comment se reloger. Les loyers sont exorbitants, le marché immobilier saturé. Une mère, les larmes aux yeux, m'a confié qu'elle devait quitter l'hôtel où elle séjourne d'ici 2 semaines pour des raisons administratives. Elle a pris des congés pour chercher un logement pour sa famille, mais la tâche semble insurmontable. Malgré tout, elle m'a dit sa joie de voir ses enfants retourner à l'école, retrouver une routine et un peu de distraction. Achim Lipold, Los Angeles, RFI.
La gestion des incendies en Californie, ce n'est pas le seul dossier sur la table des administrations Biden et Trump. La première va laisser sa place à la seconde officiellement lundi lors de la cérémonie d'investiture. Les deux présidents américains qui ont été remerciés ce mercredi par Benjamin Netanyahou pour leur rôle dans l'accord trouvé pour la libération des otages. Un cessez-le-feu est en effet en passe d'être conclu pour Gaza. Il a été annoncé ce mercredi par le médiateur qatarien. Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé un peu plus tard que les derniers détails étaient encore en discussion. Alors selon les grandes lignes déjà connues, les combats s'arrêteraient à partir de dimanche pour 42 jours. Cela s'accompagnerait d'un échange d'otages du Hamas et de prisonniers palestiniens, mais pour autant pas sûr que ce plan théorique soit entièrement respecté, selon Ahmed Koussaï, docteur en sciences politiques à l'université de Ramallah en Cisjordanie occupée.
There are some fears that
Notre crainte, c'est que Netanyahou, dès qu'il aura obtenu la libération des otages, reprenne ses bombardements à Gaza, un peu comme il le fait avec le Hezbollah au Liban. Et cela signifie qu'il fera tout ce qu'il peut pour rester le plus longtemps possible à Gaza. Et l'autre point le plus important à l'issue de cet accord, c'est l'avenir de la Cisjordanie. Nous redoutons que la Cisjordanie paye le prix fort. En tant que Palestiniens, nous entendons parler de promesses faites par Trump à Netanyahou pour lui permettre d'annexer la Cisjordanie et d'y construire de nouvelles colonies.
Supporting the annexation, supporting the building a new settlement.
Ahmed Koussaï, interrogé par Sami Boukhelifa. Et d'ailleurs, malgré cette annonce d'une trêve pour Gaza, la Cisjordanie occupée continue d'être la cible de l'armée de l'État hébreu. L'autorité palestinienne a annoncé mercredi soir qu'une frappe israélienne avait tué 5 personnes à Jenin, dans le nord du territoire. Entre l'Ukraine et la Russie, l'horizon vers la paix reste là aussi très encombré. Mercredi soir, plusieurs drones ont frappé un dépôt pétrolier dans l'ouest de la Russie, selon le gouverneur local. Un énième chapitre au rang des attaques aériennes, puisque la nuit précédente, c'est le réseau énergétique ukrainien qui a essuyé une salve massive de frappes russes. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky était reçu à Varsovie ce mercredi, le dirigeant ukrainien qui veut resserrer des liens déjà très étroits noués avec son allié polonais, Anastasia Bekio.
À l'approche du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui a promis de mettre un terme rapide à la guerre, le président ukrainien souhaite obtenir des garanties de la part de ses partenaires.
Nous voulons mettre fin à cette guerre, mais pas n'importe comment. Nous voulons obtenir une paix juste. Pour cela, nous devons avoir la certitude que la Russie ne mènera pas une nouvelle guerre contre l'Ukraine. C'est pourquoi nous avons besoin de solides garanties de sécurité.
Parmi ces garanties, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui offrirait, selon le président Zelensky, la certitude géopolitique dont l'Europe a besoin. Message entendu par le premier ministre polonais Donald Tusk.
La présidence polonaise surmontera l'impasse qui s'est manifestée ces derniers mois et nous travaillerons avec l'Ukraine et nos partenaires européens sans condition préalable pour accélérer autant que possible le processus d'adhésion.
Autre garantie de sécurité demandée par l'Ukraine, des programmes de soutien à l'armée ukrainienne et le déploiement de contingents militaires étrangers sur le territoire ukrainien. Enfin, Volodymyr Zelensky appelle à dépenser 250 milliards de dollars d'actifs russes gelés pour acheter des armes à son pays.
Explication signée Anastasia Bekio. En Afrique du Sud, 78 cadavres ont été remontés d'une mine d'or abandonnée à Stilfontein depuis le début d'une opération de sauvetage lundi. Un bilan auquel s'ajoutent plusieurs corps sans vie déjà trouvés ces dernières semaines. Ces victimes, elles croupissaient sous ce site entièrement bouclé par les autorités sud-africaines. Cela fait des mois qu'elles restreignent son approvisionnement en vivres afin de forcer les orpailleurs illégaux à sortir afin de les arrêter. Une opération qui s'est achevée ce mercredi soir, Claire Bargelès.
La police, qui encercle les sorties de la mine abandonnée depuis plus de 4 mois, affirme qu'au moins 1500 mineurs illégaux sont déjà remontés et ont été arrêtés. Mais il serait encore plusieurs centaines à se trouver bloqués à plus de 2 km sous terre et à survivre dans de très mauvaises conditions. Des grues et du matériel ont été acheminés tout le week-end, malgré de fortes pluies, et une cage a été assemblée. Elle peut désormais descendre dans la galerie et remonter une dizaine de personnes à chaque trajet. De premiers essais ont déjà eu lieu ce lundi, permettant de faire sortir plusieurs survivants, ainsi que les corps d'au moins 9 mineurs décédés, selon un représentant de la communauté locale. La société privée chargée de ce sauvetage par les pouvoirs publics estime qu'il lui faudra plus ou moins 2 semaines afin de boucler l'opération. L'un des syndicats de travailleurs présents sur place dénonce un massacre, estimant qu'une centaine de personnes auraient perdu la vie sous terre. Les efforts des communautés locales jusqu'à présent avaient déjà permis d'extraire plusieurs cadavres. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Rouvrir et annoter l'un des dossiers phares de la présidence Macron. Ça sera la tâche épineuse du conclave de 3 mois que François Bayrou veut mettre en place pour réviser la réforme des retraites et le départ très contesté à 64 ans. Le chef du gouvernement français souhaite en effet que les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations syndicales et patronales, se mettent autour d'une même table pour étudier les pistes identifiées afin que la réforme soit socialement plus juste et cependant équilibré, Charlotte Turien-Thomas.
Officiellement, du côté de l'exécutif, on est confiant sur l'issue des négociations. Sophie Prima, porte-parole du gouvernement.
On fait confiance aux partenaires sociaux. Donc moi, je ne préempte pas un échec des discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux sont extrêmement bien placés pour négocier. C'est eux qui connaissent les mécanismes. Donc nous leur faisons confiance et nous parions sur la réussite de ces négociations.
Mais un ministre en première ligne sur les retraites le confiait à quelques journalistes. Il reste circonspect quant à la réussite de ce conclave. Et à droite, on a aussi du mal à y croire. Philippe Gosselin, député LR.
Moi, ce que je crains, c'est qu'on suscite beaucoup d'espoir et que l'espoir soit vain et qu'en réalité, dans 3 mois, on ait suscité beaucoup de crispations et qu'on se retrouve à la case départ.
Sans surprise, la France Insoumise estime qu'il s'agit d'une tactique de la part du Premier ministre pour gagner du temps. acheter le PS et ne croit absolument pas à une réussite possible. Antoine Léaumont, député LFI.
C'est de la poudre aux yeux qui est envoyée pour essayer d'obtenir des socialistes qu'il n'y ait pas de censure. C'est de l'enfumage.
S'il paraît donc difficile que les négociations puissent aboutir, il sera néanmoins compliqué pour les groupes politiques de faire l'impasse sur ces tractations.
Charlotte Turien, Thomas K, RFI, 2h10 à Paris, 1h10 temps universel.